Bonsoir Nicolas Demorand.
Bonsoir Charline et bonsoir à tous. Bienvenue dans le 18-20 d'Inter. Le programme de ce vendredi 28 août, 18h15, retour sur l'épidémie d'Ebola, partiellement enrayée. Deux des trois principaux pays touchés par le virus sont parvenus ou en passe de le vaincre. Le professeur Jean-Claude Manuguera est mon invité tout à l'heure. À 19h20, les secrets d'info de Mathieu Aron font leur rentrée avec cette semaine un invité, l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic. Tout de suite le 18h de Florence Paracuelos, que je salue. Bonsoir Florence.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. À la une ce soir, des hommes en rupture de banc. Après François de Rugy, Jean-Vincent Placé quitte le navire Europe Écologie Les Verts. Nous verrons comment l'Élysée voit se rapprocher ces deux hommes qui ne cracheraient pas sur un poste ministériel. Au PS, c'est le cas Macron qui hérisse le poil avec sa nouvelle attaque contre les 35 heures. Il tente aujourd'hui de la minimiser. Il se fait recadrer par Manuel Valls, mais cela n'éteint pas la colère de la gauche du parti. Nous irons dans l'est de l'Allemagne, à Heidenau, où l'on craint, comme la semaine dernière, des violences racistes contre les migrants. Aujourd'hui, une fête de bienvenue a tout de même été organisée pour les nouveaux arrivants. On entendra la stupeur d'un journaliste d'investigation alors que deux de ses collègues sont en garde à vue pour avoir voulu faire chanter le roi du Maroc. La satisfaction également de la première médaillée d'or française aux mondiaux de judo, c'est Gevry Zeman. Elle a pulvérisé son adversaire. Et puis on se bouchera les oreilles ou montera le son, au choix, à l'écoute du nouvel album de Motorhead. Du monde sur la route, on fera le point à la fin de ce journal, ainsi que sur la météo estivale du week-end. Bienvenue sur France Inter. De la difficulté de cohabiter sous la même bannière quand on n'a pas les mêmes idées, c'est la problématique du jour, que l'on parle d'Emmanuel Macron et des socialistes, on y reviendra, ou bien de François de Rugy, rejoint par Jean-Vincent Placé aujourd'hui, qui ont eux choisi de trancher leur lien avec Europe Écologie Les Verts. Refus d'une dérive gauchiste pour le premier coprésident des députés de son ancien parti à l'Assemblée. C'est un astre mort, ajoute le second président du groupe au Sénat. La suite dira si les deux hommes se feront une place ou pas dans le prochain gouvernement remanié. Ils essayent d'y avoir leur strapontin, dit aujourd'hui Daniel Cohn-Bendit. En attendant, on peut se poser cette question. Karine Bécart, bonsoir.
Bonsoir.
Comment François Hollande voit-il tout ça? Est-ce que ça fait ses affaires, Karine?
Pour l'instant, François Hollande attend. Pas de précipitation, le président observe comme l'ancien premier secrétaire du PS qu'il a été savait observer. Et il ne sait sans doute pas, alors qu'il est, ce qu'il va faire exactement de tous ces écolos qui ont décidé de quitter leur navire, leur parti. Maintenant, est-ce que c'est malgré tout une bonne nouvelle pour François Hollande? François de Rugy et Jean-Vincent Placé essaient effectivement de convaincre le président que c'est une bonne opération. Sous-entendu, Cécile Duflot et Europe Écologie Les Verts sont aujourd'hui tellement marginalisés qu'ils sont devenus irrécupérables. Ce n'est probablement pas l'avis de François Hollande, qui préférerait, dans la perspective d'une candidature à l'élection présidentielle de 2017, avoir son ancienne ministre du Logement avec lui plutôt que contre lui. Pourquoi? Parce que même si elle faisait un petit score, voire un très petit score, elle peut le faire échouer à l'issue du premier tour. En fait, les écolos sortants espèrent tactiquement forcer la main de François Hollande, le pousser à les faire entrer au gouvernement, sauf qu'on ne force pas la main de ce président.
Karine Bécart du service politique de France Inter. Alors lui aussi a du mal avec la ligne, celle du Parti Socialiste. Emmanuel Macron a dû revenir sur ses propos d'hier au MEDEF aujourd'hui. La gauche a cru que la France pourrait aller mieux en travaillant moins. C'était une fausse idée. Énième critique implicite des 35 heures de la part du ministre de l'Économie. Je ne parlais pas de cela, a-t-il rectifié dans la matinée après un recadrage de Manuel Valls. Il n'y aura pas de remise en cause du temps de travail, a assuré le Premier ministre. Les petites phrases font du mal à la vie politique. Emmanuel Macron, coutumier du fait, ulcère évidemment une bonne partie du PS, réuni sans lui à l'université d'été de La Rochelle. Et certains ne comprennent pas que François Hollande lui laisse ainsi la bride sur le cou. C'est le cas de Benoît Hamon.
Moi, je suis, sidéré de ces provocations. Je veux dire, si des ministres aujourd'hui n'ont qu'une seule obsession, c'est de remettre en cause des conquêtes qui sont celles que nous avons bâti il n'y a pas longtemps, je veux dire, c'était avec Lionel Jospin, j'étais au cabinet de Martine Aubry, ce sont les 35 heures auxquelles les Français sont attachés. Moi, j'ai envie de dire au président de la République, il faut demander aux membres de votre gouvernement de se tenir. de tenir leur parole. C'est fatigant. Fatigant de devoir réagir à chaque rentrée au propos d'un Manuel Valls ou d'un propos d'un Emmanuel Macron. Je veux dire, c'est fatigant. Puisqu'ils se préoccupent de la réduction des temps de travail, aujourd'hui, bah, qu'il augmente le temps de travail global en faisant son boulot à lui, qui doit être de créer des emplois. Et aujourd'hui, manifestement, sur ce terrain-là, il échoue. Là, il me met en colère, comme beaucoup de gens, n'a pas besoin d'une polémique nouvelle. C'est au président de la République de mettre maintenant un peu d'ordre.
Benoît Hamon avec Laurence Perron, le patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis, promet qu'il aura une franche explication avec Emmanuel Macron. Et son soutien le plus fort, en réalité, est arrivé par la droite, aujourd'hui par l'ex-porte-parole de Nicolas Sarkozy, le député Les Républicains Gérald Darmanin, qui lui offre quasi sans rire sa circonscription. Je créerai son premier comité de soutien, a-t-il dit.
Il est 18h06, la suite du journal Florence Paracuelos, et ce sont donc 71 personnes, probablement des Syriens, dont la vie s'est achevée dans un camion de transport de volailles.
Oui, leurs corps ont été découverts hier sur une autoroute autrichienne. Il y avait 4 enfants à bord. 3 personnes ont été arrêtées en Hongrie, le propriétaire et les probables chauffeurs du poids lourd. Dans le même temps, en Méditerranée, 76 corps ont été repêchés après le naufrage d'un navire hier au large de la Libye. Ils sont 2500 à avoir trouvé la mort en Méditerranée depuis le début de l'année selon l'ONU, et 300 000 migrants à avoir réussi à la traverser. On le sait, ces migrants sont nombreux à vouloir rejoindre l'Allemagne. Le week-end dernier, la ville d'Aidenau a connu des manifestations très violentes de l'extrême droite contre l'ouverture d'un foyer de réfugiés. Aujourd'hui, les autorités de ce land de Saxe ont tenté d'interdire toutes les manifestations jusqu'à dimanche, mais elles ont dû revenir sur leur décision et autoriser une fête de bienvenue aux 600 réfugiés installés depuis la semaine dernière. Sur place pour France Inter, notre correspondant Cyril Sauvageau.
Montrer une autre image de l'Allemagne, accueillante et généreuse. C'était l'objectif de cette fête de bienvenue qui a failli être annulée pour raison de sécurité. Finalement, plusieurs centaines de bénévoles et d'habitants de la région, comme Tom, ont pu apporter leurs dons sur le parking qui jouxte le centre d'accueil. C'est un symbole tellement fort quand on sait les violences qui ont eu lieu ici la semaine dernière, de voir des Allemands réunis pour aider. C'est notre façon de montrer aux réfugiés que nous sommes de leur côté, que notre pays, notre société désire leur venir en aide. De la nourriture, des vêtements, des jouets pour enfants. Dans la cohue, les réfugiés qui manquent de tout repartent avec des sacs entiers. Nasser, un étudiant ingénieur syrien, est arrivé d'Alep il y a quelques jours. C'est super, la nourriture est bonne, tout est bien organisé. Mais vous savez, nous sommes très nombreux. Si vous pouvez nous aider, le plus important, c'est que nous ayons vite des papiers en règle. Jusqu'ici, l'atmosphère est bon enfant, mais la police reste sur le qui-vive. L'extrême droite a prévu de manifester ce soir aux abords du centre d'hébergement. À Aidenau, Cyril Sauvageau, France Inter.
En France, les critiques du défenseur des droits au lendemain de l'évacuation d'un camp de Roms à la Courneuve, au nord de Paris. Jacques Toubon déplore qu'aucune solution pérenne d'hébergement et de prise en charge sanitaire et sociale n'ait été proposée aux familles, dont certaines vivaient là depuis 7 ans. Les médecins toujours en guerre contre la loi santé adoptée au printemps et qui généralise le tiers payant. 4 organisations syndicales ont aujourd'hui appelé à l'arrêt des soins le 3 octobre prochain. Mais quelle est donc cette improbable affaire de chantage exercée par des journalistes sur le royaume du Maroc? Depuis hier, Éric Laurent et Catherine Gracier sont en garde à vue à Paris après avoir été pris la main dans le sac en pleine transaction avec des émissaires marocains auprès de qui ils auraient monnayé 3 millions d'euros pour ne pas publier un livre compromettant sur Mohamed VI. Le petit monde des investigateurs n'en revient pas. Les deux journalistes ont déjà une belle carrière derrière eux. Écoutez Nicolas Beau, rédacteur en chef de mondeafrique.com.
Je connais très bien Catherine Gracier pour avoir travaillé avec elle sur un site d'information qui s'appelait Bakchiche, et surtout pour avoir écrit 2 livres avec elle comme co-auteur. L'un qui était sur le Maroc, quand le Maroc sera islamiste, et l'autre, la régente de Carthage, sur l'épouse de l'ancien président Ben Ali. Catherine m'a toujours semblé extrêmement rigoureuse, totalement indépendante et désireuse de dénoncer les privilèges et les abus de toutes sortes.
Vous n'y croyez pas ?
Écoutez, il y a évidemment un certain indice extrêmement troublant, notamment la nomination en plein été de 3 juges, le flagrant délit. Bon, mais je veux encore espérer qu'ils ont cru monter un stratagème pour coincer le palais marocain, je ne sais pourquoi, mais j'en arrive toujours pas à y croire. Catherine ne paraît pas du tout fabriquée pour monter ce genre de coup foireux. En plus, elle a une haute idée du journalisme. Si par malheur elle avait été prise là d'un coup de folie, pour elle, ça serait terrible parce que c'est à l'encontre de tout ce qu'a été sa vie et son parcours jusqu'à présent.
Le journaliste Nicolas Beau avec Julie Pietri. Le premier procès pour pédophilie au Vatican n'aura pas lieu. Le prélat polonais poursuivi par l'église de Rome est mort la nuit dernière à 67 ans. Sa comparution était vue comme un symbole de la nouvelle sévérité du Vatican en la matière. Les Grecs seront convoqués aux urnes le 20 septembre. C'est la date fixée aujourd'hui pour les législatives anticipées consécutives à la démission d'Alexis Tsipras. Son parti Syriza reste en tête des intentions de vote selon les instituts de sondage grecs.
Allez, à 18h10, le sport. Et ça y est, nous avons une championne du monde de judo 2015.
C'est Gevry Zeman, la doyenne de l'équipe de France. Elle a 33 ans. Elle a remporté sa médaille d'or chez les moins de 70 kilos grâce à une victoire éclair en 14 secondes par Hippon sur l'Espagnol Bernabéu. Gevry Zeman devant son titre avec Fabrice Rigobert.
Il est magnifique, donc c'est mon troisième titre. Franchement, je pensais pas, enfin je suis vraiment super contente. Et en plus, voilà, c'est mon dernier championnat du monde, donc c'est super, c'est beau. Je dis la vérité, je pensais pas que ça allait être aussi court. En plus, face à moi, franchement, c'est une judoka qui est vraiment très forte, très physique. Je suis super contente. Je sais pas, un troisième titre mondial, c'est pas rien. Il y a les Jeux de Rio dans pas très longtemps. Alors bon, on va se bastonner avec, excuse-moi pour l'expression, mais avec Fanny qui a fait 3. Et d'ailleurs, félicitations parce qu'on est deux Françaises sur le podium et c'est vraiment beau. Maintenant, voilà, il n'y a plus qu'à quoi. Il n'y a plus qu'à, ce sera entre elle et moi.
Et elle, c'est donc Fanny Estelle Posvit qui a donc décroché le bronze. Et puis en athlétisme, pas de médaille. En revanche, pour les trois Français du 110 mètres et aux Mondiaux de Pékin. On termine avec du rock, du gros rock qui tâche, celui de Motorhead, formation mythique du heavy metal, qui sort aujourd'hui son 22e album, Bad Magic. Les cheveux sont toujours aussi longs et les looks toujours aussi noirs. Et malgré un malaise en concert hier soir aux États-Unis, le chanteur Lemmy Kilmister n'a apparemment pas l'intention de prendre sa retraite, Corinne Pellissier.
Une grosse voix, reconnaissable entre mille, éraillée par des années de consommation de Jack Daniels, directe et percutante à l'image de ce nouvel album et surtout de la tournée que le groupe a entamée cet été pour célébrer ses 40 ans de carrière. Non, Lemmy n'est pas mort, il n'est même pas à l'aube de prendre sa retraite. L'incident d'hier à Salt Lake City a été balayé d'un revers de tweet. Public extraordinaire, manque d'air simplement à cause de l'altitude. Le défibrillateur n'est jamais très loin, c'est vrai, depuis les problèmes de santé de Lemmy l'année dernière. Il saute aussi un peu moins en concert, mais continue d'enchaîner les titres avec la même énergie féroce. La preuve ici, avec cette version revisitée de Sympathy for the Devil des Rolling Stones qui clôt l'album, en forme d'hommage à tous ces papis du rock qui n'ont décidément pas fini de nous bluffer.
Motorhead au Zénith de Paris le 15 novembre, si ça vous intéresse. Et si vous êtes rock, restez branchés sur France Inter. Soirée spéciale ce soir à partir de 21h en direct de Rock en Seine qui ouvre ce soir au Parc de Saint-Cloud. Retransmission des concerts de Miossec, FFF ou Jeanne Haddad entre autres. Et puis les coulisses du festival, sachez-le, sont à retrouver sur franceinter.fr. Voilà pour la petite piqûre de rappel. Et avant de vous quitter, je vous propose d'aller faire un tour au PC Circulation de Rony Sous-Bois parce que vous êtes nombreux à rentrer de vacances ce week-end et que ça roule déjà mal sur les axes stratégiques, Nicolas Olivier.
Oui, des retours difficiles en région Rhône-Alpes, par exemple. On s'y attendait, hein, c'est classé rouge par bison futé dans cette région. Demain, ce sera du rouge pour tout le monde, hein, dans le sens des retours. Actuellement, près de 600 km de bouchons cumulés dans tout le pays et l'autoroute A7 concentre pas mal de difficultés en remontant vers Lyon. Vous êtes en accordéon entre Orange et Valence. Attention au départ de Givors, l'A46 est à éviter pour contourner Lyon avec 1h30 d'attente pour faire 6 km. Le contournement de Grenoble difficile lui aussi. L'A61 au départ de Narbonne est bouché en direction de Toulouse avec plus d'une heure d'attente. Sur l'A9, 10 km de bouchon à hauteur de Montpellier en direction de Nîmes. Et puis l'A10, difficile en remontant vers Paris juste avant Tours, à hauteur d'Orléans, bouchon de 12 km. Enfin, après le péage de Saint-Arnoult, il faut prévoir 1h30 pour atteindre les portes de Paris.
GMF, l'assureur qui prend soin de vous. Rappelez-vous que même à 20 km/h, votre ceinture peut vous sauver la vie. GMF, assurément humain.
Voilà Florence.
Eh ben oui, et sachez que demain la journée est classée rouge, Nicolas, donc ne prenez pas la route demain.
Non, je la prendrai pas, sûr et certain, promis. Merci Florence, c'était le journal de Florence Paracuelos. Prochain rendez-vous avec l'info sur France Inter à 19h pour le journal de Sébastien Paour. À suivre, un jour dans le monde, juste après la météo, l'été revient, Jean-Michel Golinski.
Souvent du beau et du plus chaud ce week-end, avec l'après-midi des températures de 25 à 31 degrés du nord de la Loire à la Belgique, 30 à 34 dans la moitié sud, localement jusqu'à 36 sur le nord de Rhône-Alpes et le long de la Garonne, avec un soleil souvent rayonnant sur la plus grande partie du pays, sauf de la Bretagne à la Normandie jusqu'aux Flandres, où sous un ciel quand même plus mitigé, on ne sera pas tout à fait à l'abri d'ondées et même d'orages dimanche après-midi. On notera également en matinée pas mal de nuages bas sur les autres régions du nord de la Loire et d'importantes entrées maritimes du golfe du Lion à la plaine toulousaine, poussées par un vent d'OTAN à 80 km à l'heure.
À la MAE, nous protégeons chaque instant de la vie des enfants, à l'école et pendant toutes leurs activités. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 11 euros par an. Adhérez vite sur MAE.fr. MAE, mon premier assureur. Détails des garanties dans la notice d'information sur MAE.fr.
France Inter. On aime.
On aime.
On vous en parle.
Jacques Audiard.
Jacques Audiard.
Pour Dipane.
Dipan, le nouveau film de Jacques Audiard, Palme d'Or, actuellement au cinéma. Un ancien soldat, une femme et une petite fille qui ne se connaissent pas se font passer pour une famille afin de fuir la guerre civile au Sri Lanka. Arrivés en France, ils tentent de se construire un foyer. Dipan, Palme d'Or, un film France Inter. Retrouvez Jacques Audiard demain à 10h15 sur France Inter dans On aura tout vu.
Merci d'écouter France Inter, il est 18h17.
This is Radio Free.
Minutos en Colombia.
France Inter, le 18-20.
Le 18-20 aujourd'hui dans quelques beaux vignobles à travers le monde. Sicile, Californie, sud de l'Angleterre. Oui, sud de l'Angleterre. C'est le journal de l'international en forme de carte des vins avec le sommelier Michael Thébault. La revue de presse des correspondants de France Inter. Ce soir, Frédéric Carbone en direct de la Nouvelle-Orléans et Philippe Reltien à Pékin. 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger. Scandale à la Chambre des Lords outre-Manche. Mais tout de suite, l'Afrique de l'Ouest.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
Et plus particulièrement cette zone que certains ont pu appeler le triangle Ebola, composé de la Sierra Leone, du Libéria et de la Guinée, les trois pays les plus touchés par une épidémie particulièrement meurtrière. Pour mémoire, les premiers cas apparaissent vers la fin de l'année 2013, fin décembre 2013. Ce n'est que 6 mois plus tard, en 2014, donc, que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, sonne l'alarme mondiale. Sur place, les équipes de MSF, Médecins sans frontières, sont en première ligne et en parallèle, les laboratoires essayent de trouver une ou des parades, notamment des vaccins. Vous le savez, nous avons consacré de nombreuses émissions à cette épidémie. Il y a aujourd'hui quelques bonnes nouvelles qui méritent analyse et un nouveau point sur la situation qu'on va faire avec le professeur Jean-Claude Manuguera. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes virologiste, directeur de la cellule d'intervention biologique d'urgence, c'est à l'Institut Pasteur. En quelques mots, qu'est-ce que c'est que cette cellule et comment elle fonctionne ?
Alors c'est une cellule qui a été créée en 2002 sous l'impulsion de la Direction Générale de la Santé par l'Institut Pasteur pour répondre aux urgences biologiques spécialisées, c'est-à-dire des diagnostics qui ne sont pas tout venants. Et nous sommes activés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis 2004.
Et vous avez eu une fonction dans la lutte contre l'épidémie dont on parle et qui est en train là de décliner ?
Eh bien en fait, toute mon équipe a été impliquée, notamment et pas seulement, à part les aspects de recherche, dans la mise au point d'un diagnostic plus rapide, sur lequel on travaille toujours, et puis également, nous sommes 7 personnes de mon équipe sont allées sur place dans un centre de traitement pour aider au diagnostic.
La rapidité, la lenteur en l'occurrence, a été au cœur d'une polémique. Alors il y avait une épidémie qui était tellement ravageuse qu'il n'y avait pas le temps de polémiquer, mais tout de même, on a reproché à l'Organisation Mondiale de la Santé d'avoir du retard à l'allumage plusieurs mois après. Quelle est votre analyse là-dessus, vous qui êtes dans l'urgence précisément?
Alors en fait, dans les maladies virales, la lenteur ne pardonne jamais, que ce soit dans les traitements individuels ou dans les traitements populationnels lorsqu'il y a une épidémie. Et donc en fait, la lenteur, on la paye très très cher. Je crois que il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer cette lenteur. D'abord, la surprise d'avoir cette maladie dans ce coin d'Afrique où elle n'existait pas. Et donc ça a été la première surprise avec un retard énorme, puisqu'en fait, vous avez dit les premiers cas décembre 2013, on s'en est aperçu après la mi-mars 2014. Donc déjà, on perd beaucoup de temps, mais c'est souvent le cas dans les épidémies comme ça quand on s'y attend pas. Et puis ensuite, ça a été, je dirais, un déni un peu des différents pays, hein, puisque c'est souvent difficile à accepter. On minimise beaucoup au départ. Moi-même, j'ai cru au départ, en avril 2014, quand la première fois que j'y suis allé, que c'était fini. En fait, c'est la fin de la première vague à Conakry. Et en fait, ça a commencé en Sierra Leone, alors qu'on ne le savait pas à l'époque. Et ça a beaucoup compté. Ensuite, il y a des problèmes probablement d'organisation au niveau de l'Organisation Mondiale de la Santé, où en fait l'intervention jusqu'à un certain niveau se réalise au niveau des régions et non orchestrée par le quartier général, on pourrait dire, qui est à Genève. Et c'est un gros problème parce que les responsables régionaux sont élus par les États et n'ont pas beaucoup de comptes à rendre, en fait, sauf après un certain niveau. Et donc, je pense que ça a été un petit peu gardé trop régionalement au départ. Et puis, juste pour terminer, il y a aussi, le souvenir douloureux de l'OMS qui a été accusé d'aller trop vite pour la grippe H1N1 pandémique ou la grippe mexicaine. Voilà mon analyse.
Alors, sur le plan de la chronologie, encore un petit mot. Vous le décrivez bien, et d'ailleurs, très franchement, je vous en remercie. Vous avez été en retard sur l'épidémie pendant de longs mois. À partir de quel moment vous parvenez à retourner les choses et à reprendre la main sur l'épidémie ?
En fait, d'abord, on a pris beaucoup de retard au départ, mais c'est le cas dans beaucoup d'épidémies qui nous surprennent. C'était dans le cas du SRAS, par exemple. Le premier cas était mi-novembre 2002 et l'alerte mondiale a été donnée le 12 mars 2003. Donc, vous voyez, on a toujours ces quelques semaines de retard. Donc ça, c'est un peu, je dirais, inévitable. Peut-être qu'on pourrait améliorer les choses. Mais en fait, c'est peut-être dans des pays où les situations sont pas déjà très faciles. Ensuite, une fois que l'épidémie a démarré, je pense qu'il y a on a cru que ça allait se passer comme d'habitude, et en fait, on aurait dû se rendre compte que c'était pas le cas. Et je crois qu'on a repris la main très tard. Je crois qu'on n'a pas repris la main avant le dernier trimestre 2014, début 2015. Hein. C'est-à-dire que là, on avait déjà une épidémie qui s'était déroulée de manière inédite.
Alors, on va vous poser la question de savoir où on en est exactement maintenant. Commençons par la Sierra Leone. Elle ne compte plus de malades d'Ebola, mais encore quelques personnes en observation. C'est bien cela ?
Oui, tout à fait. Il y a plus de cas au Sierra Leone depuis 2 semaines. Le dernier cas a été dans les derniers 21 jours, un seul cas. Alors, évidemment, vous avez toujours des contacts à suivre. Autre bonne nouvelle, pas de cas non plus au Liberia. Et là, depuis largement plus de 21 jours avec arrêt du suivi des cas bientôt. Et puis, en revanche, en Guinée, c'est là où ça a commencé au premier. C'est pas été le plus touché des 3 pays, hein, mais c'est là où ça continue. Et là, il y a encore 3 cas dans les deux dernières semaines. 3 cas, ce qui est évidemment pas les 800 cas par semaine qu'on avait avant, mais avec la difficulté qu'il y a eu des cas, ces 3 cas qui ont eu beaucoup de contacts. Et notamment un chauffeur de taxi. Et il va falloir bien suivre ces cas pour éviter que ça ne soit une mèche qui réallume.
Ouais. Professeur Jean-Claude Manuguera, comment expliquez-vous que 2 pays s'en sortent et que le 3e soit encore dans une phase tout de même relativement aiguë de l'épidémie ?
Alors, j'ai bon espoir que ça se termine aussi. Hein. Là, avec ces 3 cas, je crois que il faut pas lâcher tant qu'on n'a pas le cas zéro sur 2 fois 21 jours. Donc, c'est très difficile. Je suis pas un spécialiste de l'Afrique et des coutumes africaines, mais il y a probablement l'histoire de l'épidémie qui fait qu'elle a démarré dans ce pays, qu'elle a diffusé le long de la route qui va de la préfecture de Gekedou, hein, qui est dans le sud-est du pays, vers vers la capitale, on voit très très bien, et que en fait ça a diffusé, que il y a aussi probablement le style d'intervention a été un peu différent dans les différents pays. Je pense que tout ça a eu un impact sur la courbe épidémique et la façon dont elle s'est déroulée. Les trois pays ont réagi différemment à cette épidémie.
Mais ils avaient en commun d'avoir un certain nombre de dysfonctionnements du point de vue des pouvoirs publics, à commencer par ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir la première phase qui est celle du déni, des systèmes de santé publique aussi extrêmement fragiles. J'imagine qu'en si peu de temps, ces trois pays ne se sont pas dotés d'infrastructures sanitaires de toute première qualité. Donc, comment ont-ils fait pour enrayer l'épidémie? Comment ça se passe? Comment on éteint une épidémie de cette manière-là?
Alors, d'abord, je ne veux pas être injuste avec ces trois pays en disant que c'est les seuls à faire preuve de déni lorsqu'une épidémie commence, parce que c'est vrai pour tous les pays. Je crois que ça, c'est pas exceptionnel, malheureusement. Comment ça se passe? Ben, en fait, c'est vrai que moi, je connaissais pas la Guinée avant d'y aller pour cette épidémie. C'est vrai que c'est un pays très pauvre, avec un système de santé complètement délabré. Et on s'aperçoit que les pays qui ont été touchés ici sont des pays qui ont eu une instabilité politique très importante, dans lesquels l'État n'est pas très très fort, et dans lesquels il y a une certaine distance,
défiance
vis-à-vis des autorités. Donc ça a été une grosse difficulté. Alors comment on s'en sort? Il y a évidemment l'aide internationale qui est arrivée un peu tard, qui est arrivée aussi, je dirais, on a eu un peu de mal aussi à mobiliser. On n'a pas forcément les ressources de personnes spécialisées dans ces maladies-là. Et je dois dire que, par exemple, pour ce qui concerne la mobilisation de la France, l'établissement public de réponse aux urgences sanitaires, l'EPRUS, ça a été un instrument, je pense, important pour coordonner l'effort français aux côtés des autres. Le partage du monde, c'était un peu le Sierra Leone, c'était les Britanniques, le Libéria, les Américains et la France, la Guinée. C'est un peu schématique.
Oui, c'est schématique, mais c'est pas faux non plus.
C'était un peu ça. Et donc, c'est vrai qu'il a fallu organiser pour la France, et les Prusses, je dois dire, a joué un rôle, sur beaucoup de points, qui a été important pour des instituts comme le nôtre, par exemple, pour pouvoir intervenir. Et donc, c'est la mobilisation internationale qui a permis d'aider ces personnes, parce qu'évidemment, il n'y avait pas de ressources sur place, ce qui veut dire que dans l'avenir, il faudra probablement veiller à ce qu'il y ait des ressources aussi régionales pour pouvoir lutter contre ces épidémies, parce que celles-là ou d'autres viendront.
L'OMS, Organisation Mondiale de la Santé, dit encore aujourd'hui prudence, attention, regardons les choses. Comment peut-on être certain qu'il n'y a pas ici ou là à bas bruit des foyers? Comment ça, aujourd'hui, on peut le mesurer, le voir, le savoir?
C'est la grande question. La grande question, c'est est-ce qu'on va sortir de cette épidémie vainqueur, entre guillemets, malgré évidemment tous les morts qu'il y a eu, c'est-à-dire on s'en sera débarrassé, et le cycle épidémique des maladies Ebola redeviendront comme elles étaient, c'est-à-dire qu'elles disparaissent et qu'elles ont besoin de leur source animale pour réapparaître, ou bien donc ça, c'est un peu le scénario du SRAS, c'est-à-dire qu'on arrivait à éliminer le virus de l'homme, et s'il veut revenir, il faut qu'il réaccomplisse toute l'histoire évolutive qui lui permet de s'adapter à l'homme. Ça, c'est le cas positif du SRAS. Peut-être qu'on sera dans le cas négatif qui a été celui du sida, par exemple, où là, le virus est entré dans l'espèce humaine. Alors là, quand on s'en est aperçu, c'était vraiment déjà beaucoup trop tard. Quel va être le scénario? Je pense que...
On ne
sait pas pour l'instant. C'est vrai que le taux de létalité, c'est-à-dire le nombre de morts sur le nombre de malades, était généralement... dans les épisodes précédents, de 90% pour les plus sévères. Là, on descend globalement à 40%, c'est-à-dire qu'il y a 60% de gens qui ont été infectés qui s'en sont sortis, tant mieux pour elles. Ça veut peut-être dire qu'il y a des infections asymptomatiques, et ça, on n'est pas très clair, en fait, encore aujourd'hui, sur la possibilité ou non d'infections symptomatiques et d'infections
symptomatiques. Ça veut dire quoi, ça?
Ça veut dire qu'on est infecté, qu'on a le virus, mais qu'on est pas ou peu malade. Et ça, c'est très dangereux d'un point de vue épidémiologique, parce que le danger qu'on voit... on peut s'en prémunir, le danger qu'on ne voit pas, c'est beaucoup plus dangereux.
Jean-Claude Manuguerra, les traitements alors, on a pu lire beaucoup de choses, on a pu voir qu'il y avait en parallèle au déploiement de l'épidémie une volonté d'aller extrêmement vite et donc de tester un certain nombre de vaccins ou de médicaments. On a quoi en main aujourd'hui?
On a quoi en main? Alors d'abord, je crois, ce qu'on a en main, c'est d'abord un discours. C'est-à-dire que on a dit au début de l'épidémie, on a eu tort de dire...
Ça soigne, ça, un discours.
Non, mais ça peut tuer. C'est-à-dire qu'en fait, au début de l'épidémie, on a dit, et moi je l'ai dit aussi, c'est-à-dire que faire attention qu'il n'y avait pas de traitement. Et donc les gens n'allaient pas dans les hôpitaux, parce que d'abord, quand les hôpitaux, ils sortaient morts. Et donc, ils ne voulaient pas aller dans ces hôpitaux. Et en fait, pourquoi y aller, puisqu'il n'y a pas de traitement? Et en fait, on n'aurait pas dû dire ça, parce qu'en fait, il y a des traitements symptomatique, c'est-à-dire qu'on a besoin de soutenir le corps. Le problème, le virus attaque et le corps, au bout d'un moment, peut réussir à fabriquer ses défenses. Mmh. Alors, le virus a ses stratégies qu'on pourrait commenter. Et si on aide le corps à passer un moment difficile, et notamment sur la perte de fluide, pas forcément les hémorragies, eh bien, on a un succès qui peut dépasser 50%. Donc, c'est quand même 1/2 qu'on peut sauver. Par ces traitements-là de soutien. Donc, faut pas dire qu'on n'a pas de traitement. On a des traitements symptomatiques qui sont là pour lutter contre les effets, pas contre les causes. Mmh. Alors, pour les traitements symptomatiques, je parlerai d'abord du vaccin. Je crois que c'est là où on peut avoir un espoir, parce que les résultats qui ont été publiés dans le Lancet il y a 2-3 semaines sont extrêmement encourageants sur l'efficacité de ce vaccin. C'est un vaccin, on va dire, qui est basé sur un virus cousin de la rougeole, on va dire en gros, et qui porte ce qui caractérise le virus Ebola et qui apprend à notre corps à se défendre. Donc ça, pour l'instant, c'est pas thérapeutique, mais ça peut être utile en intervention en anneau autour des foyers épidémiques, ce qui permettrait peut-être d'éviter les diffusions des épidémies.
C'est un bon vaccin.
Pour l'instant, les résultats, à mon avis, pouvaient pas être meilleurs. Mais évidemment, il a été essayé sur un nombre limité de personnes, mais le nombre de personnes sur lesquelles il a été testé sont 10 fois plus nombreuses que les personnes qui avaient été infectées dans la plus grosse épidémie. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'on a, et je pense que on peut avoir bon espoir pour ce vaccin.
Continuez.
Ensuite, les traitements. Il y avait un traitement dont on a beaucoup parlé, qui est le ZMAP, ou le ZMAP, comme disent les Américains, qui est en fait un cocktail d'anticorps monoclonaux. Donc là, on va prendre ce que l'organisme fabrique pour se défendre contre les virus, et ce cocktail-là, en fait, semble bien marcher. Malheureusement, en fait, les quantités étaient extrêmement limitées et c'est produit par génétique sur des plants de tabac. Et donc, pour augmenter la production, il aurait fallu beaucoup plus de temps que ça. Donc, ça sera probablement à revoir. Mais là, on voit que on observe que les anticorps peuvent marcher. Donc, ça, c'est une piste à suivre. Et puis, il y a eu des essais avec des molécules chimiques, dont le fameux favipiravir, qui a été un peu favorisé parce qu'en fait, c'est un médicament pour lequel toute la partie sûreté avait été fait sur des milliers de personnes parce que c'est un médicament qui avait été développé contre les virus grippaux. Et donc, on savait que c'était des médicaments sûrs. Maintenant, est-ce que c'est des médicaments qui marchent? Je pense qu'il faut attendre encore les résultats de l'étude qui sont terminées, mais qui sont terminées récemment.
La cécité, il en a été question dans les pays touchés par Ebola. Effet secondaire de traitement ou effet de la maladie?
Alors, effet secondaire de traitement, si on parle de favipiravir, je pense pas, parce qu'en fait, comme pour le vaccin d'ailleurs qui a été, il y a des effets d'inocuité, les phases 1, comme on appelle ça, qui ont été réalisés et pour lesquels il n'y a pas eu ce type d'effet indésirable grave, très probablement qu'il s'agit de conséquences de l'infection.
Donc, il n'y a pas besoin d'être en défiance par rapport aux traitements qui sont en circulation. Il faut avoir confiance, pour le dire encore plus simplement. Vous avez dit que les discours étaient importants.
Oui, enfin, je trouve qu'il faut avoir confiance dans la mesure. De toute façon, si on n'en prend pas, on retombe. On a peu le choix. C'est un peu des traitements compassionnels, quand même. Il faut avoir confiance.
Merci professeur Jean-Claude Manuguera. Je rappelle que vous êtes virologiste et directeur donc de cette cellule d'intervention biologique d'urgence abritée par l'Institut Pasteur. De l'Institut Pasteur, c'est encore mieux. Oui, pourquoi faire une phrase compliquée quand c'est aussi simple. Merci encore d'avoir été au micro de France Inter. Tout de suite, la revue de presse des correspondants de la chaîne.
12 del día, 9 minutos en Brasil.
Revue de presse internationale.
Londres, Franck Metron, France Inter.
Bonsoir Frédéric Carbone.
Berlin, bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
Bonsoir Marc Crépin.
Bonsoir Sébastien Eugénie, France Inter.
Bonsoir, heure de Paris, bonjour, heure de chez vous. 18h34, comme tous les vendredis, donc, la revue de presse internationale concoctée par les correspondants de France Inter. Avant de filer à Pékin, rejoindre Philippe Reltien, direction la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Bonsoir Frédéric Carbone.
Bonsoir Nicolas.
Alors dites-nous Frédéric, qu'est-ce qui est à la une de la presse locale, de la presse de la Nouvelle-Orléans ?
Bah, à la une de la presse de la Nouvelle-Orléans, évidemment, ce sont les 10 ans de Katrina et la visite de Barack Obama hier pour ses commémorations. Alors le New Orleans Advocate, qui est le plus grand journal d'ici, à sa une, en fait, il met en miroir ce qui est la réalité aujourd'hui et il y a 10 ans. Vous avez le titre principal, évidemment, sur ce qu'est venu dire Obama hier, qui est venu saluer le renouveau, la renaissance de la ville avec ce titre, extrait d'une formule de Barack Obama. Vous avez inspiré toute l'Amérique, vous êtes une inspiration pour toute l'Amérique. Une façon de dire que cette ville qui a été le symbole d'une tragédie, d'une faillite de l'État, est aujourd'hui un modèle, un peu un laboratoire social d'après Barack Obama. Mais en même temps, juste à côté, l'autre titre, c'est « On cherche encore 10 ans après le bilan exact de Katrina ». On n'est pas capable de dire exactement combien il y a eu de morts. Il y a des personnes, notamment dans les quartiers les plus dévastés, les plus abandonnés, qui disent « On n'a pas de nouvelles, mais peut-être c'est des gens qui sont partis et qui n'en ont jamais donné ». Donc 10 ans après, on ne sait pas encore quel est le bilan exact de Katrina. Autour de 1800 morts, mais on ne peut pas dire précisément.
Et puis Frédéric, la commémoration de Katrina s'accompagne aussi de nombreux débats, de débats plus intellectuels, plus urbanistiques. Sur quoi porte-t-il exactement ?
Écoutez, il porte sur le fait que cette ville, certes, a été profondément rénovée, que des quartiers ont été entièrement rebâtis, mais est-ce que cette ville n'est pas en train de changer d'âme un peu ? C'est le débat sur la gentrification, le mot n'est pas joli, la boboïsation, on dit en France, la gentrification aux États-Unis. C'est particulièrement vrai dans un quartier qui s'appelle Tremé, qui est le quartier historique afro-américain, le quartier de la musique. Ce quartier, aujourd'hui, il est le laboratoire dont parlait Barack Obama. Il y a des coins, je m'ai baladé hier, qui sont aujourd'hui des maisons totalement coquettes, des quartiers paisibles, moins de musiciens aussi qu'avant. Une nouvelle population qui est arrivée, beaucoup de start-up. Et il y a un agent immobilier qui s'est installé, venu du Texas, et qui dit « C'est fou, c'est la première fois que je m'installe dans un quartier qui a été un peu défavorisé et où les gens n'ont pas envie qu'il change. » Voilà, parce que ça fait flamber les loyers aussi, parce que les loyers ont été parfois multipliés par 3 et des gens qui vivaient ici depuis des années n'ont plus les moyens d'y habiter.
Et on termine, Frédéric, cette revue de presse américaine consacrée à la Nouvelle-Orléans avec le portrait d'un homme, d'un héros américain. Qu'a-t-il fait il y a 10 ans?
Eh bien écoutez, on a beaucoup parlé des héros du Thalys, là la une du Washington Post, c'est un des héros de Katrina. C'est un jeune homme qui s'appelle Ken Bellow et qui a sauvé plus de 400 personnes pendant cette tragédie. C'est un homme qui n'est absolument pas secouriste. Il a acheté un bateau, un tout petit, c'est plus une baignoire, hein, franchement, une coque de noix qu'un vrai bateau. Et chaque jour, pendant 10 jours, il allait un peu partout dans la Nouvelle-Orléans pour convaincre les gens de quitter leur maison. Parce qu'il a dit, l'eau va monter, vous n'allez pas vous en sortir. Et il a fait ça tous les jours, pendant une semaine, dans son petit bateau. On estime donc qu'il a sauvé plus de 400 personnes. Il dit, je savais que ça allait être dur, mais je n'imaginais pas à quel point j'allais être seul. Encore une fois, la faillite des autorités à ce moment-là. Et son bateau, cette coque de noix, cette baignoire, elle est aujourd'hui en vitrine à l'entrée dans des grands musées de la Nouvelle-Orléans.
Son portrait donc dans le Washington Post. Merci Frédéric Carbone. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct de la Nouvelle-Orléans. Tout de suite, un grand bond vers Pékin. Bonsoir Philippe Reltien.
Bonsoir Nicolas.
Pékin, Philippe, a la réputation d'être une ville sûre pour les expatriés. Est-ce bien toujours le cas ?
Pas si sûr. Un article dans le journal Global Times revient sur l'agression d'un couple franco-chinois suivi d'un meurtre dans le quartier cosmopolite de Sanlitun, le grand carrefour des expatriés. Ça s'est passé le 13 août, au lendemain de l'explosion du dépôt chimique à Tianjin. La police n'en a rien dit depuis. En plein jour, devant témoins et devant une célèbre enseigne de vêtements japonaise, un jeune chinois armé d'un sabre, coiffé d'une casquette de baseball, on le verra ensuite prendre la pose devant le magasin avec son arme, commence par demander à la chinoise accompagnée de son mari si l'étranger qui l'accompagne est de nationalité américaine. Puis il la frappe avec son arme. Elle est morte à l'hôpital. Le meurtre dont on ignore toujours le mobile amène ce journaliste lui-même expatrié à s'interroger sur la perception qu'ont les Chinois des étrangers qui vivent en Chine. Il fait l'expérience de retourner dans le quartier avec sa compagne chinoise en la tenant par la main. Quand elle arrive sur les lieux du drame, elle lui demande de lui lâcher la main. Pourquoi ? Parce que, explique l'auteur de l'article, si la plupart des expatriés sont les bienvenus, ils peuvent aussi être perçus comme des privilégiés, se croyant tout permis, y compris de voler nos femmes. Le détail qui me choque le plus, écrit Joshua, est l'idée qu'elle soit morte à cause des origines occidentales de son mari. Le meurtrier, un jeune de la province de Jilin, dans le nord-est, s'est laissé arrêter sur les lieux.
Et changement de sujet, Philippe, comment va donc l'armée populaire de libération ? On en parle à l'approche d'une grande parade inhabituelle le 3 septembre prochain. Parade pour célébrer la victoire de 1945 sur le Japon.
L'armée fait de la résistance, selon le Guangming Daily et d'autres organes de presse officiels qui publient le même article sous le pseudonyme de Guo Ping. On y lit que les réformes anticorruption promues par le président chef des armées, Xi Jinping, rencontrent une résistance féroce inimaginable. La campagne anticorruption a déjà déboulonné deux des trois plus hauts gradés de l'état-major ayant siégé à la commission militaire centrale. La résistance peut venir soit des anciens présidents qui ont gardé leur réseau d'influence, soit des cadres qui ont perdu la leur, soit de fonctionnaires mis au régime sec. Le quotidien du peuple dénonce les cadres favorisant l'inertie du système. La parade elle-même, 12 000 hommes, 200 avions, va rendre leur fierté aux Chinois en proie au doute en ce moment avec le ralentissement économique imposé par la conjoncture dans les usines de la ceinture de rouille autour de Pékin. Les médailles chinoises au championnat du monde d'athlétisme, suivies de la parade militaire sur fond de ciel bleu, doivent changer de climat. Le Global Times parle de la couleur bleue parade du ciel de Pékin.
Tianjin, l'explosion chimique du 12 août dernier sur le port, 145 morts au moins. Philippe, maintenant, est-ce que l'enquête progresse ?
On en est, vous le dites, à 145 morts avec des milliers de déplacés. Pour non-respect des normes de sécurité, le chef de l'administration de la sécurité au travail a été limogé. Le patron du port et le chef des douanes sont sous les verrous. Caixin, fameux magazine économique, écrit que pour obtenir son permis, la société dirigée par le fils d'un ancien policier du port a eu recours à deux sociétés d'expertise. La première dénonçant le risque évident pour les habitants des tours à 600 mètres, la seconde fermant les yeux. Les pompiers n'ont jamais trouvé assez de pression d'eau pour combattre l'incendie. Ils ignoraient la composition du cocktail et les réactions entre l'eau, la chaleur et les vapeurs de cyanure et de nitrate. Quand l'équivalent de 21 tonnes de dynamite a sauté, les sismographes à Pékin ont cru enregistrer un séisme à Tianjin de 3 sur l'échelle de Richter. Les parents des jeunes pompiers sacrifiés exigent maintenant des têtes dans la presse pour autant de négligence criminelle. Les managers de la société auraient falsifié les déclarations pour abaisser le coût de transport, ce qui veut dire qu'aussi bien les douaniers qui ne contrôlent que 10% des contenus que les chauffeurs de poids lourds ou que les équipages des porte-conteneurs sont exposés au même risque en cas d'incendie.
18h41, c'était Philippe Reltien à Pékin. Tous les vendredis, Joub, le programmateur musical de l'émission, nous fera découvrir, appelons ça, un morceau du monde, une chanson, une mélodie, un air qui s'écoute ailleurs. Aujourd'hui, le groupe de trip-hop libanais Soap Kills, il a été fondé à Beyrouth en 1997. Sa marque, vous allez l'entendre, c'est un mélange de musique arabe traditionnelle et électro, tango, immense succès là-bas.
تعال نجد المنى والغرام كفنا البعد وغيام تعال قبل انقضاء الشباب وموت الحب وانقطاع الرذاب انت الهوى انت ملء الاماني حياتي انت
groupe libanais Soap Kills, le choix de Joub cette semaine, 18h43.
Datiadas, rapido minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
ailleurs dans le monde. C'est le petit journal de l'international signé Michael Thébault. Bonsoir Michael.
Bonsoir Nicolas.
Un petit journal ce soir en forme de carte des vins.
Ah oui, je ne vais parler que de vin Nicolas, et parce que les foires au vin débutent la semaine prochaine en France. Ben non, pas du tout. Simplement parce que 2015 s'annonce comme une année exceptionnelle, en tout cas en Europe, où le mois de juillet, vous le savez, a été l'un des plus chauds de ces 30 dernières années, à tel point que les vendanges ont commencé avec 2 à 4 semaines d'avance en France, en Espagne, en Italie ou en Allemagne. Pour les vins dits du Nouveau Monde, là en revanche, il va falloir patienter encore un petit peu. Et j'aimerais qu'on commence par ces vins du Nouveau Monde, une définition en quelque sorte. Qui sont-ils? Où sont-ils? J'ai posé la question à Enrico Bernardo, meilleur sommelier d'Europe 2002 et meilleur sommelier du monde 2004. Écoutez.
C'est tout simplement les pays hors Europe, Afrique du Sud, Amérique latine, Chili, Argentine, Californie, Australie et Nouvelle-Zélande, les plus gros pays. Sauf que la viticulture a été installée souvent dans le 16e siècle, 17e siècle dans ces pays-là, et qui voit finalement presque une viticulture plus ancienne que le vieux continent. Pourquoi je dis ça? Car en Europe, la phylloxéra a dévasté le vignoble en entier entre 1890 et 1910. Du coup, tout le vignoble européen s'est revu replanter. Quelque part, le vieux continent est devenu aussi un nouveau continent dans le vin.
Voilà, donc nouveau monde à nuancer, hein, on l'a bien compris. En tout cas, quand on dit nouveau continent, on pense souvent à la Californie, l'un des plus beaux exemples, ces vins de l'Ouest américain gorgés de soleil, mais auxquels on reproche souvent d'être beaucoup trop Frenchy, cépage et vinificateur made in France. C'est faux, nous répond Robert Haas. Et Robert, c'est une figure du vin américain à la tête du prestigieux domaine Tablas Creek. C'est l'un des vins les plus connus et les plus chers des États-Unis.
Le vin est produit dans un style, si vous voulez, européen. Mais il n'y a pas les années où les raisins ne mûrissent pas. Donc le problème de Californie, c'est plutôt de récolter des raisins avec l'acidité, mais qui sont mûrs. Donc on ne veut pas produire des vins de 15 degrés, 15 et demi. C'est difficile de dire si c'est des vins français avec davantage de soleil. Je ne pense pas. Il y a une personnalité un peu différente.
Et après la Californie, Michael, dans la liste de ces vins du Nouveau Monde, je demande le petit dernier. Celui-là, on ne l'avait pas vu venir.
Ah non, puisqu'il s'agit de la Chine. Alors, on ne le sait pas forcément, mais cela fait près de 20 ans que les Chinois tentent de faire du vin. Et si leurs débuts, il faut bien le dire, ont été un peu laborieux, eh bien ça s'améliore, et même de plus en plus vite, parce que là encore, le savoir-faire français s'est exporté. Les 5 plus grands domaines chinois aujourd'hui sont directement conseillés par des winemakers tricolores. Et en Chine, la consommation de vin explose. C'est presque 10% de bouteilles en plus vendues chaque année. Gigantesque marché à conquérir évidemment pour les Français entre autres, et surtout à développer de l'intérieur par les Chinois eux-mêmes. Alors doit-on avoir peur, Nicolas, du vin chinois? Pas pour l'instant, nous explique notre meilleur sommelier Enrico Bernardo.
La Chine, tout le monde la regarde de près parce que, en termes de consommation, ça a explosé dans les derniers 5 ans. Du coup, les Chinois même se sont mis à faire du vin. Évidemment, ils ont calqué sous le modèle français, parce que ça reste quand même la référence mondiale. Ils ont planté des cépages français, un peu à l'image des autres pays il y a 30 ans. Ça reste des vins corrects pour l'instant. Il n'y a pas encore une vraie définition de terroir, qui est le meilleur endroit où planter de la vigne. Il y a eu des zones qui ont été identifiées. Mais encore aujourd'hui, ça reste à titre d'information. Ça n'a pas pris encore une valeur importante au niveau des exportations. C'est surtout bu localement.
Et retour, Michael, maintenant sur le vieux continent avec un nouveau phénomène. Il est en pleine expansion.
Oui, c'est ce qu'on appellera l'offensive des petits vins. Petits en volume produit, mais pas en qualité. Car c'est précisément la force de tous ces domaines. Et ça, on le voit partout en Europe. Ce sont des vins qui jusqu'ici ne s'exportaient pas, car jugés trop typiques d'une région, d'un terroir. Mais maintenant, c'est ça au contraire que le consommateur recherche, une identité, une typicité, comme par exemple ces vins produits en Sicile sur les pentes du volcan Etna par Vito Catana. Alors est-ce spécial de cultiver de la vigne sur de la poussière de lave? C'est la question que je lui ai posée il y a quelques minutes.
Ah oui, bien sûr, parce que n'oublions pas que sur l'Etna, le climat est comme sur la montagne, et plus ni moins, nous avons beaucoup de pluie, contrairement à Paquino. Mais comment se fait-il qu'on n'a pas de moisissure? Parce que la terre volcanique ne retient pas l'eau. Elle l'a fait, c'est comme c'est une passoire. Les lapilles, ça s'appelle lapilles, et c'est tout petit, c'est grand comme des grains de blé qui se fixent sur les racines. Et ça, une minéralité, ça a des trucs incroyables.
Et toujours au rayon particularisme œnologique, Michael,
Champagne.
Oui, parce que là aussi, au royaume des bulles, ça évolue à très grande vitesse. Jusqu'ici, nos producteurs champenois riaient des prosecco italiens ou de ces vagues mousseux du sud de l'Allemagne. Mais voici maintenant un solide concurrent. Et là aussi, ça peut surprendre puisqu'il est anglais. Ce sont les sparkling English wine, littéralement les vins anglais pétillants. Et attention, ne dites pas mousseux british, car outre-Manche, on ose parler de véritable champagne, même si évidemment l'appellation leur est interdite. Mais depuis 25 ans, réchauffement climatique oblige, et bien figurez-vous que dans le sud de l'Angleterre, on a quasiment les mêmes conditions météo qu'en Champagne. Résultat, les sparklings se rapprochent de nos bulles à nous, comme l'explique l'un des leaders du marché britannique, Andrew Weber. Il est vigneron dans le sud-est du pays. Il vend plus de 120 000 bouteilles chaque année à près de 40 euros l'unité.
Nous bénéficions du même climat que le champagne français il y a 25 ans. Et nous cultivons des raisins avec vraiment beaucoup de succès et toujours parfaitement adaptés à la production de bouteilles de sparkling. Nous avons exclusivement planté du chardonnay, du pinot noir et du pinot meunier. Je pense qu'il y aura toujours une différence parce que le terroir est un paramètre qui donne toujours quelque chose de spécifique que les connaisseurs peuvent détecter. Mais les sparklings que nous produisons en Angleterre, nous les façonnons sur le modèle des meilleurs champagnes. Et parce que nous ne sommes pas du champagne, nous devons justement essayer autant que possible d'être même meilleurs.
Et ben voilà, après le vin chinois, la France peut peut-être aussi avoir peur du champ made in Britain. Est-ce vrai? Ben, j'ai encore posé la question à notre sommelier Enrico Bernardo.
Les sparklings anglais sont depuis longtemps de grande qualité. Je pense qu'ils peuvent rivaliser effectivement sur la scène internationale avec les champagnes. Il y a quelques producteurs exceptionnels. Après, le nombre de maisons champenoises, le nombre de qualités de champagne qu'il y a en France est nettement supérieur à la quantité qu'on puisse trouver hors France, hors Champagne.
Voilà, on respire un peu, mais pas plus que cela. À lundi.
À lundi, Michael Thébault.
Moteur.
Un jour dans le monde. Nicolas Demorand.
Oh, allons-y.
Sur France Inter.
Oh putain, moteur.
Mais oui, moteur, bonsoir ma chère Eva Bettan.
Bonsoir.
Joie de vous retrouver dans
moi
l'émission.
Aussi.
Vous nous parlez de quel film ce soir?
Mais j'aimerais que ce soit vous qui disiez le titre.
Bah, je vais vous le laisser le faire.
Cemetery of Splendor d'Apichatpong Weerasethakul.
Voilà, c'était pour ça. Je me suis entraîné, j'ai pas réussi.
Exactement. Alors, Apichatpong Weerasethakul a atteint une célébrité quand il a eu la Palme d'Or en 2010 grâce à un autre frappé qui est Tim Burton, qui lui aussi n'aime pas les histoires simples, est un constructeur de monde. Apichatpong Weerasethakul jusque-là a été aimé d'un groupe de cinéphiles. Phil Ferrand, c'est un grand artiste, mais c'était plus confidentiel. Nous arrivons donc avec ce film, il atteint une sorte de sérénité et j'ai envie de dire que c'est son film le plus accessible, toute proportion gardée. Cela se passe dans une sorte de jungle, je veux dire dans une forêt, et il y a un hôpital de fortune qui a été construit sur le site dans une ancienne école abandonnée. Et là, il y a un groupe de soldats qui sont atteints d'un mal étrange, ils dorment. Juste, ils dorment. Et nous allons être entre le rêve et la réalité, entre la vie et la mort. Nous allons être dans une sorte d'entre-deux, avec une médium, par exemple, qui interprète ce que pensent ces soldats, pour le dire au prochain. Alors, il y a une pointe d'humour, parce que la femme vient dire « Dites-moi, est-ce qu'il a une maîtresse ?» Donc, c'est assez étonnant de celui qu'on retrouve. Mais c'est un cinéma vraiment particulier. Et vous entrez dedans, je veux dire, vous qui entrez ici, abandonnez votre rationalité. Et Apichatpong nous parle de cela, de notre rationalité qu'il faut oublier.
Je pense que ce film résonne avec la sensibilité de certains spectateurs. Ceux qui aiment le film trouvent qu'il ressemble à un rêve. Le film en lui-même agit comme une séance d'hypnotisme. Certaines images vous emmènent ailleurs, dans un autre monde, qui ressemble à notre monde habituel. Mais la lumière est belle, la nature est belle. Vous ne savez pas si c'est un rêve ou la réalité.
On a l'impression par moment que chez vous, le monde d'aujourd'hui et le monde d'hier ont des liens. De même, on vient d'en parler, les rêves et la réalité ont des liens. Est-ce qu'il y a une relation entre les mondes? Est-ce que les mondes ne sont pas séparés?
Eh bien, ce n'est pas forcément comme ça qu'on vit en Thaïlande. Mais certains pensent qu'il n'y a pas de frontière entre la vie et la mort. Ils croient à une vie après la mort. Et aussi que nous sommes entourés d'esprits. Ça influence beaucoup la manière dont nous vivons. Ce film montre comment nous ne vivons pas sur un seul plan de réalité.
C'est étonnant parce que le cinéma peut être manié de différentes manières et vous, vous dites, on peut mettre le spectateur dans un état presque d'hallucination. Ça, c'est presque un effet de drogue.
Oui, je pense que la drogue, c'est simplement une façon de manipuler notre corps, notre cerveau, par la chimie. Je crois que quand vous méditez, ou que vous allez au cinéma, c'est une manière bien plus douce d'envoyer à notre cerveau des substances qui nous mettent dans l'état du rêve.
Vous laissez en dehors la situation politique de votre pays. Est-ce que ça, les années écoulées ont été assez tendues et le sont toujours en Thaïlande? Est-ce que ça influence le film d'une certaine manière?
Oui. Je pense que ce qui s'est passé en Thaïlande ces derniers mois m'a inspiré pour faire ce film. Ce film reflète la tristesse que je vois dans mon pays. Cela va au-delà de la politique. Il est question d'un pays qui décline et aussi de l'état de confusion dans lequel sont les gens. Plusieurs couches qui se superposent, la confusion, le souvenir de notre histoire et les désirs insatisfaits.
Donc le film s'appelle Cemetery of Splendor et il est de Happy Chatpong Weerasethakul.
Merci Eva Bétan.
Le 18-20, Nicolas Demorand. Un jour dans le monde.
Avec Anthony Bélanger, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Shocking, Anthony, cette liste de l'ordre proposée par David Cameron.
Et pour une fois, la presse britannique dans son ensemble parle d'une même voix pour la dénoncer, cette fameuse liste de 45 nouveaux pairs du royaume. 45 d'un coup, ça porte le nombre total de pairs, ou de lords si vous voulez, à 826. Vous avez bien entendu, ouais. La seconde chambre de Grande-Bretagne, qu'on pourrait comparer dans ses compétences au Sénat français, compte 826 membres, tous habillés d'hermine et tous payés par le contribuable britannique. C'est simple, la Chambre des Lords et l'Assemblée parlementaire, qui compte le plus de membres au monde, après le Congrès national du peuple en Chine, sauf que la Chine a une population d'1,4 milliard d'habitants, et la Grande-Bretagne à peine 65.
Et puis le problème là, ça n'est pas simplement le nombre, c'est aussi le pédigré des nouveaux
et
lords.
Oui, parce qu'effectivement, sur les 45 nouveaux lords et dames, donc on compte un banquier de la City qui a donné des millions au Parti conservateur, un PDG d'entreprise célèbre pour ne pas avoir payer ses employés au salaire minimum et la fondatrice d'une entreprise de lingerie. Mais l'exemple le plus frappant est celui de Douglas Hogg. Lui, il est très très célèbre outre-Manche et on le surnomme Monsieur Douve ou plus et donc maintenant Lord Douve. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'avait pas donc pu se représenter aux élections de 2010, aux précédentes élections législatives, parce qu'il a vu le toupet d'exiger et d'obtenir le remboursement des frais de nettoyage des douves de son château personnel. Le voilà donc récompensé d'une pairie.
Et est-ce qu'on envisage une réforme?
Le problème, c'est que la dernière réforme a été mise en place en 2014, c'est-à-dire l'année dernière. Elle permet aux pairs qui le veulent de prendre leur retraite. 120 l'ont fait pour l'année dernière. Mais c'est une réformette. Encore aujourd'hui, il n'y a pas de limite dans le temps au mandat de Lord et la retraite est une possibilité, pas une obligation. Par contre, chaque pair reçoit 400 euros par jour s'il passe une tête à l'Assemblée et 200 en voyage officiel. Au point que la presse parle de la maison de retraite la plus chère du royaume. Mais pour tout vous dire, le scandale, il est ailleurs.
Et il est où exactement?
Eh bien, le...
Parce que Jacques gratiné.
Eh bien, le jour même où David Cameron publie sa liste de copains et de coquins nommés à la pairie, le quotidien The Guardian publie en une étude qui montre qu'en 5 ans, les pauvres ont été systématiquement virés du centre-ville de Londres. Alors, je ne parle pas des SDF, mais bien de la population pauvre qui vivait encore dans les HLM de l'hypercentre de Londres, autour du Parlement de Westminster, en fait, qui abrite justement la Chambre des Lords. Eh bien, The Guardian s'est rendu compte que le nombre d'enfants qui bénéficient de la cantine gratuite avait chuté d'un quart à Londres contre seulement 3% dans le reste du pays. Or, cet indice est couramment utilisé pour mesurer la pauvreté. S'il a chuté ainsi, ce n'est pas parce que la pauvreté a diminué dans le centre de Londres, c'est parce que des dizaines de milliers de familles, en 5 ans, ont quitté leur logement pour faire de la place aux tours et aux penthouses des hyper-riches. C'est donc le contraste entre ces deux informations. Les 826 pairs à vie du royaume d'une part et les pauvres chassés du centre-ville de Londres d'autre part, qui est le vrai scandale.
Anthony Bélanger, merci.